RCF.
Qu'est-ce que la grâce en christianisme ? C'est le thème de nos entretiens avec vous, André Birmelet. Je rappelle que vous êtes théologien luthérien, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Alors nous évoquions avec vous ce Dieu qui finalement nous déloge de toutes les idées que nous pouvons avoir sur la divinité. Vous parliez d'une puissance qui ne s'exerce pas à la manière dont on l'imagine, mais plutôt peut-être comme un retrait justement. C'est comme si Dieu, avec nous, nous donnait la parole, nous mettait en position d'accepter ou de refuser librement la relation avec lui, c'est ça ?
Il vous laisse évidemment cette liberté. Alors je ne peux pas vous dire pourquoi certains refusent cette main tendue et d'autres l'acceptent. Est-ce la liberté du croyant ? Vous pouvez affirmer que oui. Mais la question se posera derrière. Pourquoi est-ce que le croyant a cette liberté? D'où est-ce qu'elle lui vient? Vous allez arriver à des débats sans fin. Là aussi, il faut passer dans le concret de la vie. Dans le concret de la vie, c'est une proposition de vie qui vous est faite. Et alors, il y en a certains qui la reçoivent, il y en a d'autres qui ne la reçoivent pas. Je ne le sais pas pourquoi. Et le centre de cette proposition de vie, c'est... On va prendre une autre histoire biblique, c'est celle qui est racontée dans l'évangile de Luc avec le pharisien et le publicain.
On rappelle alors la scène ?
Oui, c'est la fameuse scène où le pharisien monte au temple et dit « Heureusement que je ne suis pas comme le publicain à côté de moi, je fais ceci, cela, je paye la dîme, je jeûne, etc. »
Mon Dieu que je suis bien.
Mon Dieu que je suis bien. Et le publicain qui dit tout simplement « Seigneur, aie pitié de moi ».
Publicain qui est collecteur d'impôts, faut le rappeler.
Un publicain collecteur d'impôts.
Et donc qui est un peu un collaborateur.
Oui, et là vous êtes précisément dans la situation de la personne qui en elle-même et par elle-même a tout, et une autre personne, le publicain en l'occurrence, qui sait qu'elle n'a pas grand-chose et qui est prête à recevoir. Et l'enjeu, c'est cette disposition humaine d'accepter de recevoir et de se recevoir de quelqu'un d'autre. Et le don majeur dans cette réception, et c'est là peut-être, non c'est pas peut-être, c'est là que bat le cœur de la foi chrétienne, c'est évidemment la croix et la résurrection du Christ.
C'est-à-dire, alors on va revenir sur la croix, mais dans celui qui est en position d'échec, on peut le dire, puisque vous disiez précédemment que le pauvre, celui qui est tombé, il a besoin d'une parole, il a envie d'entendre une parole, il a envie d'une relation, et donc il va faire confiance. On peut dire que c'est ça la foi, c'est croire en quelque chose que je ne vois pas, mais dont j'ai la certitude qu'elle est essentielle pour ma vie.
Oui, et qui m'est quotidiennement rappelé dans mon dialogue, dans ma prière et dans le culte, la messe que je célèbre, où Dieu se donne à moi et me donne et me confirme dans cette certitude. C'est bien ça la raison pour laquelle nous vivons cette foi chrétienne, pas quelque part dans un petit coin, mais en communauté.
En église.
Et en église célébrante.
Ah, voilà. Vous voulez dire que ce n'est pas tout seul ?
Ah, évidemment pas tout seul.
Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais moi je suis chrétien toute seule.
Mais vous êtes chrétien tout seul si vous êtes ermite. Précisément parce que vous vous définissez par rapport à une église où vous avez reçu la foi. On n'est jamais chrétien tout seul. La relation à Dieu se traduit nécessairement par la relation à l'autre. C'est comme vous n'êtes pas enfant tout seul dans une famille. La relation à vos parents est toujours aussi la relation aux frères et sœurs.
Dans l'évangile, Jésus invite les personnes qu'il rencontre à croire justement. Oui. Souvent il est dit, mais crois seulement. Et tu auras la vie. Mais c'est sacrément difficile de croire sur parole.
C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 10, un des plus beaux versets. « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. » C'est merveilleux de pouvoir dire « Je crois » et ceci n'interdit pas le doute. Les gens qui ont des certitudes, ce qui finissent par être des idéologies, ce sont des gens très peu intéressants. Les gens qui s'efforcent de croire et qui connaissent aussi les doutes, voilà la foi. Et c'est là qu'on revient au matin de Pâques. Le matin de Pâques est le matin de tous les doutes. Vous n'avez personne qui croit en la résurrection ce matin-là. Marie-Madeleine pense voir le jardinier, Thomas croira pas, Pierre qui court au tombeau mais il n'y trouve rien.
Jean dit quand même, il rentra, il vit et les linges et il crut.
Oui, parce que l'évangile de Jean le présentera toujours de manière positive. N'empêche que les disciples qui vont à Emmaüs l'après-midi même disent « Nous avons entendu dire que, mais les disciples y sont allés, c'est pas vrai du tout. » Et vous avez là le noyau. Et ce noyau, c'est cette croix et cette résurrection. Maintenant, il faudra se mettre d'accord sur ce qu'est la croix. Et la croix qui n'est rien d'autre que l'entrée de Dieu dans le monde et Dieu qui accepte la pire des situations qui est la nôtre, c'est-à-dire la mort. Et finalement, cette mort qui est transformée, vaincue le matin de Pâques. Alors le matin de Pâques qui n'est en rien le retour au Jeudi Saint. C'est là, il faudrait lire maintenant ensemble toute la première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, une toute nouvelle création. Et cette toute nouvelle création affirme, ce n'est plus la mort qui limite la vie, mais la vie qui limite la mort. Vous êtes en plein dans l'évangile, et ça c'est la certitude, écoutez, qui me porte tous les jours. Partout il y a des signes de mort, et ils sont nombreux sur cette terre. Partout, je suis sûr que c'est la vie qui a le dernier mot.
André Birmelet, Lazare qui est dans le tombeau depuis 4 jours, eh bien Jésus dit à Marthe, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela? C'est la parole de Jésus à Marthe. La mort n'a donc pas le dernier mot pour lui, et vous nous disiez que normalement, pour chaque chrétien, ça devrait être ce à quoi il croit.
Je suis d'accord avec les conséquences que vous en tirez, je suis plus prudent avec l'exemple de Lazare.
Ah.
Ce qui est dit dans l'évangile de Jean, c'est clair, c'est à propos de la résurrection que le Christ a inauguré. Pour Lazare, comme le fils de la veuve de Nain ou la fille de Jaïrus, je constate simplement qu'ils sont remorts.
Après, ils sont morts.
Ils sont à nouveau morts. Donc ils sont remorts, en tout cas moi je ne les ai jamais croisés, donc je suppose qu'ils sont à nouveau morts. La résurrection n'est pas le retour à la vie. La résurrection est une toute nouvelle création qui précisément ne connaîtra plus la limite de la mort. Et celui qui est en Christ est aujourd'hui déjà une nouvelle créature. Nous sommes déjà entrés dans cette nouvelle situation et la mort physique ne nous affectera plus. En ce sens, certes, on va mourir physiquement. Mais nous sommes déjà avec le Christ ressuscité en une vie nouvelle. Nous avons part à une nouvelle façon d'être. Benjamin Franklin a fait écrire sur sa tombe, même si ce n'est pas vrai, mais vous vérifierez sur Google que c'était effectivement l'épitaphe qu'il l'avait choisi. À la fin, on ne l'a pas mis, mais il dit la chose suivante. « Si j'y Benjamin Franklin, comme un vieux livre jeté au feu, usé. » avant qu'il ne reparaisse dans une édition revue et corrigée par l'auteur. Je trouve ça merveilleux comme image de la résurrection. C'est mon vieux corps, ma vieille façon d'être, ben à un moment donné, il faut qu'elle fasse place à une toute nouvelle créature. Mais le contenu du livre est la même chose. Édition revue et corrigée, et puis vous trouvez de nombreux exemples. 1 Corinthiens 5 vous dira le grain de blé qu'on met en terre et qui germe, et c'est ça l'image de la résurrection. Donc on n'est pas du tout dans la situation où le matin de Pâques, ce serait le retour à ce qui était avant. Et je crois aussi que pour la croix, il faut insister sur ce que les hymnes médiévaux font et que malheureusement on a trop souvent oublié dans l'histoire de l'Église.
La croix glorieuse.
Oui, c'est la mort de la mort. Jésus entre dans la mort et la mort ne s'attend pas à trouver pareil adversaire. Et maintenant, la mort est morte.
Oui, vous voulez dire, ces croix qu'on figurait avec une grande sobriété et le Christ était déjà ressuscité sur la croix.
Oui, mais vous voyez, ça nous déplace un peu par rapport à ce que vous pouvez entendre, surtout plus tard dans la société médiévale, où alors la croix, c'est il faut que du sang coule pour réconcilier Dieu. C'est pas la notion qui est en fait l'idée de la résurrection. Et lorsque Paul vous dit la croix, c'est notre force. La croix, elle, c'est notre force parce que la mort est morte. Et ça, nous le découvrons le matin de Pâques. Et maintenant, je sais que ma vie est limitée par une mort physique, mais de toute façon, je vis déjà avec Dieu. Et surtout, il n'y a plus jamais de situation définitivement désespérée. Et il y a toujours cette certitude de la parole. Et Dieu recréera la vie, Dieu nous rendra, nous remettra dans une situation de vie avec lui.
Donc la grâce, c'est d'être créé à son image.
Oui.
Mais la grâce dont vous venez de parler, c'est cette vie en abondance éternelle.
Et cette certitude d'être dans cette vie-là. Et pas seulement à la fin des temps. Ici, aujourd'hui, maintenant, j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu.
Nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci à vous, André Biermalet.